Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Frère Henri Donneau, bonjour.
Bonjour Nathalie.
C'est un dernier entretien de cette série des clés pour vivre consacrée à tous ces scandales de l'Église catholique. Une Église, on l'a bien compris, en crise et puis dans la douleur. Au programme, une simple question. Comment l'Église catholique, qui existe depuis 2000 ans, va-t-elle se relever de tels grands scandales, frère Henri Donneau?
Oui, l'historien que je suis ne peut pas s'empêcher de relativiser immédiatement en disant des crises, l'Église en a vu de quantité d'autres peut-être beaucoup plus graves.
Oui. Voilà.
Ceci dit, il ne faut en rien minimiser la gravité extrême de celle-ci, qui est probablement une des plus graves depuis les tourments d'après le Concile, peut-être même encore plus grave parce que cette fois-ci, on sent que l'Église est minée non pas simplement par des divisions, comme c'était le cas après le Concile dans les années 70, des graves divisions entre progressistes, conservateurs, là, elle est minée par les forces du mal agissant en elle. Elle est minée par la présence réelle du péché, non pas des divisions, la division est un péché, mais qui peut se comprendre. Là, c'est le mal intrinsèque, des abus sexuels, d'abus de pouvoir, qui mine l'Église de l'intérieur et qui montre sa vulnérabilité. Voilà. Donc ça, c'est la crise de ce point de vue-là est très grave. Maintenant, je crois que le point fondamental aujourd'hui, c'est pas de se dire l'Église en a vu d'autres, elle est là, elle a la promesse de la vie éternelle, ce qui est très vrai. C'est qu'est-ce que nous pouvons faire ici et maintenant pour que les choses changent. Ça, exactement comme dans toutes les grandes crises au Moyen-Âge qui ont pu y avoir à l'époque moderne. Comment ça s'est passé? Eh bien, il faut compter d'abord sur les saints, sur la sainteté. Il n'y a pas d'autre secret dans l'Église. La seule manière pour l'Église de se remettre debout, c'est d'aspirer à la sainteté, de demander au Seigneur des saints, des grands témoins, un saint François au XIIe siècle ou saint Dominique, un saint Bernard, vous voyez, ces grandes figures de sainteté qui remettent en quelque sorte une dynamique évangélique, qui remettent l'évangile au premier plan par la radicalité de leur vie. Et ça, je crois qu'il ne faut pas négliger ça. Il faut vraiment demander une plus grande sainteté, et pas simplement des saints, mais de la sainteté pour tous. Et de ce point de vue-là, nous sommes tous solidaires. Les laïcs, comme les ministres, nous sommes tous solidaires. Est-ce que oui ou non, nous prenons au sérieux radicalement l'appel à la sainteté, l'appel à la perfection, qui est valable aussi bien pour les laïcs dans leur situation, dans le mariage, dans le célibat, dans le travail professionnel, que pour nous, les ministres. Et ça, c'est un grand message de Vatican II qu'on a trop souvent oublié, cet appel universel à la sainteté qui est la vie même de l'Église. Oui, je crois que s'il y a une exigence aujourd'hui à laquelle nous rappelle cette crise, c'est bien celle-ci. Nous sommes tous responsables, non pas des abus encore qu'on a, peut avoir des complicités par nos silences, mais nous sommes tous responsables positivement par l'appel à vivre plus radicalement du Christ, de vivre de sa vie, de l'écouter, de le suivre, de nous nourrir de lui. Oui, ça c'est, pour moi, c'est très important. C'est quand même la solution fondamentale. Alors après, il va y avoir tout un tas d'autres choses à faire, mais il y a d'abord cet appel radical à une plus grande sainteté, à tous les états de vie. Voilà. Ça me paraît très, très important. Alors après, vous me direz, comment on va incarner ça? Eh bien, incontestablement, il va y avoir des mises à jour, il va falloir mettre à plat un certain nombre de difficultés. On a évoqué celle de la formation, ça, je ne reviens pas là-dessus.
Formation et accompagnement.
Hein. Formation et accompagnement, mieux accompagner dans l'Église, c'est évident, mieux accompagner en particulier
et
les
former
ministres,
peut-être
mieux les former à ces difficultés.
Manière avec l'actualité et les scandales que nous connaissons aujourd'hui, qui touchent aussi à des abus très profonds aussi autour de la sexualité.
Oui, donc, prendre conscience d'un déficit. Encore, l'Église a vraiment fait d'énormes progrès, je peux vous assurer,
elle
depuis des décennies. Mais elle peut encore en faire, on le voit. Ça, c'est certain. Même si, malheureusement, beaucoup des abus qu'on découvre aujourd'hui sont anciens. Enfin, ils ont plusieurs décennies. Et je peux attester que vraiment, depuis 15 ans, en tout cas, dans l'Église de France que je connais bien, d'énormes efforts ont été faits dans les diocèses, dans les conversions religieuses. Voilà. C'est à poursuivre, c'est à continuer. Parce que, bon. Ensuite, il y a évidemment beaucoup de choses à faire dans les procédures. Je n'y reviendrai pas, d'écoute des victimes, comment traiter les prêtres ou les religieux qui ont fauté, qui ont commis des actes. Voilà, bien clarifier, même si je pense que c'est assez clair aujourd'hui, il y a la nécessité absolue de collaborer avec la justice de l'État, immédiatement de porter les affaires devant la justice de l'État, de ne pas chercher à cacher. Bon, il faut continuer d'améliorer ces choses-là, c'est très important. Donc formation, les procédures. Et puis je crois fondamentalement, voilà, comment repenser l'exercice communautaire dans l'Église du message de l'Évangile avec un meilleur partage de la responsabilité de chacun. Chacun à sa juste place pour éviter justement qu'on enferme les prêtres dans cette idée que c'est à eux de tout faire et qu'ensuite c'est eux qui sont responsables de tout ce qui ne va pas comme qui seraient responsables de tout ce qui va bien. Non, il y a une collégialité dans l'Église, une communion de tous dans l'Église. Et je pense que la crise d'aujourd'hui peut être une bonne occasion. Plutôt que justement qu'elle accentuerait ce qui serait dramatique, une césure entre d'un côté les fidèles qui diraient « nous ne sommes pas responsables » et les prêtres qui seraient tous responsables, ce qui est faux. Comment assumer tous ensemble dans l'Église ces péchés commis par certains? Mais n'allons pas nous cacher, il y a aussi des péchés graves certainement commis. On sait très bien dans les familles, des péchés de pédophilie qui sont là. Donc n'allons pas dire les prêtres sont seuls coupables, ce serait absurde. Ils sont tous, voilà. Comment tous ensemble nous asseoir dans une meilleure manière d'accueillir l'Évangile, de mieux exercer, alors, de mieux vivre l'autorité dans l'Église, à la fois une plus grande écoute, une plus grande proximité des uns et des autres, et une plus grande union dans la prière. La prière n'est pas réservée qu'aux prêtres, la prière est l'affaire de tous, et il faut porter cette affaire profondément dans la prière, dans la manière de se former, dans les actions. Une église aussi qui doit, je pense, lorsque les choses vont mal, se faire toujours davantage et mieux témoin de la miséricorde de Dieu, de mieux vivre profondément le pardon entre nous, d'être mieux, plus profondément capable de partager. Tout ce qui fait, je reviens un peu à cette idée de la sainteté, enfin, chacun à sa place, voilà, que l'Église soit plus profondément fidèle à ce qu'elle est. Et je pense que cette crise peut être, il faut vraiment la vivre comme ça, comme une occasion de renouveau. Et comme les grandes crises, des scandales de la fin du Moyen-Âge, qui avaient beaucoup ébranlé, qui ont d'ailleurs provoqué la réforme protestante, hein, bien, ont abouti à une Église qui s'était vraiment bien ressaisie dans tout son corps, avec un clergé qui a été de grande qualité dans tout le XVIIe, XVIIIe. Comment aujourd'hui arriver aussi à ce renouveau? Et là, pas seulement pour le clergé, mais pour que toute l'Église retrouve une plus grande pureté, une plus grande radicalité, une plus grande simplicité dans la vie de l'Évangile. Et je pense que c'est comme ça qu'elle redeviendra mieux témoin de l'Évangile. Et je me dis parfois, bienheureuse crise qui arrive, qui va nous obliger, face à la déchristianisation, de revenir à des fondamentaux. Parce que je me suis dit, mais quoi faire devant la déchristianisation? On ne savait pas quoi faire. Mais maintenant, je crois que le message est là. Urgence d'une purification très profonde de l'Église, de remettre à plat tous les problèmes pour qu'il puisse naître une Église du XXIe siècle qui soit vraiment habitée par l'Esprit, hein, sur des voies nouvelles, et qu'elle puisse assumer non seulement cette crise, mais assumer le défi de l'évangélisation pour que le Christ puisse vraiment rejoindre les cœurs de tous ceux qui, majoritairement en France aujourd'hui, ne le connaissent pas. Vous voyez, je pense qu'il faut... Moi, je n'hésiterais pas à relier la crise aujourd'hui avec le défi de l'évangélisation. Alors même qu'apparemment, on se dit, on est en très mauvaise posture pour évangéliser dans cette question. Il est temps, et à mon avis, je pense que la lumière pouvant être faite, nous pouvons maintenant, l'Église, a de quoi envisager ce renouveau par sa purification intérieure et d'être plus capable d'évangéliser, d'être mieux capable de témoigner du Christ.
Il nous reste 2 minutes, frère Henri Donneau, je ne vous ai pas interrompu, pour nos auditeurs derrière ce poste radio. Blessés peut-être par des frères prêtres, par l'Église elle-même, en colère peut-être. Une parole pour eux, frère Donneau, pour ceux qui vous écoutent, qui ne comprennent pas ce silence, ces abus qui ont été commis et profondément scandalisés, en colère, et en colère contre vous tous, frères prêtres, hein, qui représentez aussi ce clergé aujourd'hui.
Justement, on peut comprendre que cette colère prenne une dimension collective, que tous les prêtres, du coup, soient considérés, ce qui est profondément injuste. Mais enfin, on peut le comprendre tout à fait. Moi, j'aime bien revenir au psaume, le psautier est rempli de psaumes où le fidèle Israël crie au Seigneur sa colère. Je ne comprends pas jusque-là quand ça va durer. Les prêtres font n'importe quoi, le temple s'écroule. Mais tout ça dans une confiance absolue dans la fidélité de Dieu. Et la fidélité de Dieu, pour nous, c'est la fidélité de Dieu en Jésus-Christ et dans son Église. Donc il faut que, à la fois, cette colère puisse s'exprimer et qu'en même temps, qu'elle se fasse dans cette foi profonde à ce que Jésus a fait pour nous tous, qui est le don, y compris de l'Église, comme corps total du Christ, dont nous sommes membres, y compris dans nos souffrances et nos incompréhensions, mais l'être aussi dans l'accueil du salut que Dieu va nous donner, de la miséricorde, dans une forme de réconciliation vers laquelle il faut aller, et surtout de voir cette capacité de progresser ensemble, pas séparément, de ne pas briser, de ne pas durcir, laïque, clair, ce serait ruineux, alors que c'est le corps de Christ qui est blessé. La colère, et je peux vous assurer que moi, comme prêtre, je suis très en colère aussi contre d'autres. J'essaye aussi de faire preuve de miséricorde, de compréhension. Mais la colère doit pour nous être mise entre les mains de Dieu pour attendre de lui ce renouveau profondément par l'Esprit Saint qui peut donner l'Église pour nous renouveler. C'est ça l'attitude profondément croyante qui n'enlève rien à la force de la colère. Dans les psaumes, on trouve des paroles magnifiques, nous les récitons nous tous les jours, surtout pendant le temps du carême, hein, de dire « Seigneur, ça suffit jusque-à quand, mais nous comptons sur toi, ton alliance est irréversible, en Jésus-Christ, nous confessons que tu nous as tout donné, et c'est dans l'Église et par elle que nous pourrons recevoir tout cela, non pas pour qu'elle se ferme sur elle, mais pour qu'elle puisse mieux témoigner dans le monde entier de la miséricorde que Dieu veut partager à tous les hommes. »
Frère Henri Donneau, merci pour cette conclusion dans cette série qui était autour de cette crise que l'Église traverse, et c'est tout un corps qui traverse cette crise. Peut-être à très bientôt, et merci de
merci,
votre participation.
Nathalie, de votre confiance.
Au revoir, et belle mission à vous dans notre Église catholique. Au revoir.